Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse de l'année 2025 au Maroc, une année que nos sources décrivent comme étant sous tension générale.
Bonjour.
On s'appuie principalement sur un numéro spécial de la publication Aïe Débat, et le titre, c'est vrai, il donne le ton. Notre objectif, ça va être de décrypter un peu tout ça, ces tensions sociales, politiques, territoriales, pour comprendre les forces qui transforment le pays.
C'est exactement la bonne approche. Parce que ce qui est frappant dans ces analyses, c'est qu'on ne parle pas de simples crises passagères.
Ben non.
Non, on est face à des changements profonds, vraiment structurels. Et il y a un facteur qui vient tout amplifier, une sorte de catalyseur universel, le numérique.
Il redéfinit tout, l'expression, la contestation et même la façon dont le pouvoir doit réagir. De ce crise des motos non conformes.
Ah oui.
Ça peut sembler être un détail, mais ça a failli mettre le feu aux poudres.
C'est une histoire assez incroyable. L'agence de la sécurité routière, la NARSA, décide de lancer une grande campagne de saisie de motos. Sur le papier, bon, c'est une mesure technique pour la sécurité.
Logique, a priori.
Sauf que la réaction a été sismique. En quelques heures, les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos. Des conducteurs, souvent des jeunes, de milieux modestes, qui se font confisquer leurs motos, leurs outils de travail.
Et parfois de manière assez humiliante. C'est ça qui a choqué. J'ai vu passer ces images, ce sentiment d'injustice était vraiment palpable.
Exactement.
Et on est passé d'une colère individuelle à des appels à une manif nationale en un temps record.
Et la réaction du gouvernement a été tout aussi fulgurante. Suspension immédiate de l'opération, on annonce une période transitoire d'un an.
Et là, la question que posent les sources est fascinante. Est-ce que c'est une preuve de réactivité ? D'écoute, ou est-ce que c'est simplement un recul en catastrophe?
C'est toute la question. Un recul face à la pression de ce que les auteurs appellent, et j'aime beaucoup l'expression, le nouveau parlement de la rue numérique.
Attendez, le nouveau parlement, ça veut dire que le vrai pouvoir d'influence, il n'est plus à la Chambre des représentants, mais sur TikTok?
C'est un peu la conclusion, oui. Ce ne sont ni les partis, ni les syndicats qui ont fait reculer le gouvernement, mais bien la menace d'une contagion virale et d'une descente dans la rue.
C'est faux, réalité, en fait.
C'est ça. Et ce qui est dingue, c'est que derrière cette histoire de moto, l'enjeu était bien plus profond. La moto s'est décrite comme un symbole de dignité pour des milliers de gens. C'est le gagne-pain.
Toucher à ça, c'était toucher à l'essentiel.
Précisément. Et la gaffe initiale, semble-t-il, vient d'une déconnexion totale d'une agence technique avec la réalité sociale du terrain. Le ministre du Transport lui-même aurait alerté sur le risque, mais apparemment sans être écouté.
Une décision de technocrate qui provoque une crise politique majeure. Et bien sûr, avec les élections de 2026 qui approchent, tout est interprété.
Ah bah oui.
Le gouvernement se pose en protecteur et ses opposants crient au populisme.
Arta de l'école, vraiment. Une décision technique, une amplification par les réseaux sociaux, un recul politique pour éviter une crise sociale. La boucle est bouclée en 48 heures.
Cette idée de la rue numérique qui court-circuite les institutions, c'est un vrai fil rouge. Et il y a une autre démarche analysée dans les sources, plus posée en apparence, mais tout aussi radicale. Une lettre ouverte adressée directement à Sa Majesté le Roi.
Oui, par un collectif qui s'est baptisé Gen Z 212.
C'est ça.
Et c'est un objet d'étude passionnant. Ces jeunes, ils ne passent ni par les partis, ni par les syndicats. Ils s'adressent directement à l'instance suprême.
Le geste en dit très long, en effet. En lisant l'analyse, j'ai été frappée par les différentes lectures qu'on peut en faire. Il y a d'abord une dimension psychologique.
Oui, un besoin de validation, de dire « on existe ». Et une projection presque filiale, oui, sur la figure du roi comme arbitre suprême. Quand les corps intermédiaires sont perçus comme sourds, on se tourne vers le recours ultime.
Et sociologiquement, le nom qu'ils se choisissent, Gen Z 212, c'est fort.
Très fort. La génération Z plus l'indicatif du Maroc, ça montre la naissance d'une conscience générationnelle qui se définit par son âge, son pays et sa maîtrise du numérique.
Et politiquement, c'est une forme de contestation, non? Même si la forme est très respectueuse, le message implicite est quand même une critique assez virulente du système.
C'est exactement ça. C'est comme dire « puisque vous ne nous écoutez pas, on va s'adresser au-dessus de vous ». Le style de la lettre est d'ailleurs un hybride fascinant.
Ah oui.
C'est un cri du cœur qui mélange des formules de respect très protocolaires et, en même temps, une défiance totale envers le reste du système.
Une génération qui cherche son propre langage politique.
Entre loyauté et rupture, c'est tout à fait ça.
Et cette tension générationnelle, elle explose aussi dans la culture. J'ai lu ce passage sur le concert du rappeur El Grande Toto au festival Mawazine. et j'ai dû m'arrêter une seconde.
Je vois de quelle phrase vous parlez.
La citation est tellement forte. La foule dépassait en nombre les adhérents de presque tous les partis du pays réunis. C'est une image vertigineuse.
C'est une image qui résume tout. D'un côté, une jeunesse qui se retrouve en masse autour de ses propres codes.
Et de l'autre, des institutions politiques qui n'arrivent plus à rassembler.
Et bien sûr, ce succès a irrité à une partie de la société, les plus âgés, qui n'y voient que de la vulgarité ou de la décadence.
Alors que les auteurs rappellent avec justesse que c'est un cycle qui se répète.
Bien sûr, c'est un rappel assez humble. Les aînés d'aujourd'hui oublient que leurs idoles, comme le groupe Nacelle Guiwan dans les années 70,
ah, une référence guise,
étaient perçus par leurs propres parents comme des fauteurs de troubles. Chaque génération pense que la musique des jeunes, c'est juste du bruit.
Mais là où ça se complique, c'est l'attitude de l'État. Les sources pointent une vraie contradiction.
Mm-hmm.
D'un côté, on programme ces artistes dans des festivals officiels, ce qui est une forme de reconnaissance. De l'autre, on en poursuit certains en justice pour leurs propos. C'est un double jeu, non ?
C'est le cœur du problème. Cette incohérence envoie un message très confus. En tolérant, l'État montre une ouverture. En réprimant, il alimente un sentiment de persécution. Le risque, c'est de radicaliser ceux qui se sentent déjà incompris.
Après ce tableau d'une jeunesse bouillonnante, on bascule vers la classe politique. Et là, le mot utilisé est assez dur. Hein. On parle de fossiles qui s'accrochent à leur poste.
Le contraste est saisissant, c'est vrai. Et c'est précisément dans ce contexte qu'intervient l'événement politique majeur de l'année selon les analyses. Une intervention du roi en Conseil des ministres.
Avec trois mots d'ordre, moraliser, rajeunir et redonner du sens à la politique.
Exactement. Et ce n'est pas qu'un discours. C'est suivi de mesures très concrètes.
Les auteurs parlent d'une refondation silencieuse, mais révolutionnaire. C'est peut-être un peu fort.
On pourrait le penser, mais regardez les mesures. Flécher 75% du financement public des partis vers les candidats de moins de 35 ans.
Ah oui, là, c'est radical.
C'est une manière de forcer le renouvellement que les appareils partisans sclérosés ne font pas d'eux-mêmes. On y ajoute des listes régionales exclusivement féminines. L'objectif est clair.
Faire passer la jeunesse d'une génération spectatrice à une génération fondatrice, pour reprendre les termes du document.
C'est une très bonne façon de le résumer. Une révolution par le haut pour sauver la démocratie d'elle-même, en quelque sorte.
Et tout ça dans la perspective de la réforme du code électoral pour 2026.
Oui, et là, les débats sont intenses. Le premier point, c'est l'inscription automatique des jeunes sur les listes électorales. Les chiffres sont terribles. Deux tiers ne sont même pas inscrits.
D'accord, l'inscription automatique. Mais est-ce que ça suffira à les faire voter si la méfiance est si profonde ?
C'est toute la question. La réforme technique ne peut pas à elle seule recréer la confiance. La loi peut ouvrir des portes, mais si les 34 partis du pays continuent avec les mêmes visages et les mêmes discours, les jeunes resteront à la porte.
On passe de la tension politique à la tension territoriale. Et là aussi, le diagnostic est sans appel. Le concept de Maroc à deux vitesses, je savais qu'il y avait des disparités, mais certains chiffres sont effarants.
Ils sont brutaux, oui. La pauvreté est 4 fois plus élevée en milieu rural. 3 régions qui concentrent 60% de la richesse nationale. C'est un déséquilibre structurel majeur.
Donnant quelques exemples qui m'ont vraiment marqué. La scolarité. Presque 8 camps en ville contre à peine plus de 3 en campagne. Pour la santé, c'est pire. 13 médecins pour 10 000 habitants à Rabat, moins de 3 à Drat à Filalet.
On ne parle pas du même pays. Et c'est ça qui nourrit un sentiment d'abandon.
Quelles sont les solutions envisagées ?
L'idée n'est pas de freiner la locomotive, les régions motrices, mais de, je cite, « synchroniser les rythmes ». Raccrocher les wagons. On parle de programmes de développement intégré, de diversification économique.
Et il y a cette idée très concrète d'une maison des services dans chaque commune rurale. Un guichet unique pour les démarches administratives.
C'est une approche pragmatique, du terrain. Réparer la fracture par le service de proximité en attendant les grands plans. C'est le cœur du contrat social qui se joue là.
Et alors qu'on décrit toutes ces fractures internes, les sources pointent un domaine où une tension historique semble, au contraire, s'apaiser. La question du Sahara marocain.
Oui, on y parle d'un basculement diplomatique majeur.
Notamment avec les dernières résolutions de l'ONU.
Oui, les résolutions S2025, 69-2 et 2797 sont citées comme un tournant. L'ONU y qualifie le plan d'autonomie marocain de solution des plus réalistes et semble enterrer définitivement l'option du référendum.
Pour expliquer ce succès, les auteurs avancent un concept que je trouve fascinant. La souveraineté architecturale. Ça sonne un peu abstrait comme ça.
C'est le concept clé. L'idée, c'est que la légitimité sur un territoire ne vient plus seulement du droit historique, mais de la capacité concrète, visible, à construire ce territoire.
D'accord.
À y amener le développement, les infrastructures, les services. C'est la souveraineté par la preuve, par la fabrication du réel.
Donc, si je comprends bien, la stratégie, c'est arrêtons de débattre dans les couloirs et venez voir ce qu'on construit sur le terrain.
C'est exactement ça. Les villes de Laayoune et Dakhla, avec leurs ports, leurs universités, et la trentaine de consulats qui s'y sont ouverts, sont la vitrine de ce modèle.
La question change.
La question n'est plus à qui appartient ce territoire, mais qui est capable de lui donner un avenir. Le Maroc a déplacé le débat du juridique vers le tangible.
Si on fait le bilan de cette année 2025, le portrait est donc complexe. On a un pays traversé de frictions partout, sociales, politiques, territoriales. L'image d'un pays qui cherche un nouvel équilibre, on en revient à notre question du début, craquement ou croissance?
Probablement les deux en même temps. Et le fil rouge, c'est la technologie qui accélère toutes ces dynamiques. Et ce n'est qu'un début. Un des articles ouvre sur les défis à venir, comme l'IA. On mentionne ChatGPT-5.
Bien sûr.
Ça va bouleverser le travail, la sécurité. Le défi devient civilisationnel. Comment penser et agir dans un monde où la réalité est en permanence redéfinie par la technologie?
Pour finir, il y a une dernière chose qui m'a interpellée, une pensée qui reste. On a parlé de réforme, de stratégie, mais les sources insistent sur une crise plus profonde, une crise de confiance. Et un article illustre avec une histoire absurde, le scandale des vrais faux masters.
Ah oui, cette affaire.
Des formations payantes dans des universités publiques, mais que l'État ne reconnaît pas pour les concours. Et en même temps, on apprend que des faux vrais diplômes achetés, eux, sont parfois validés. Face à ça, je me pose une question, au-delà des lois, comment est-ce qu'on restaure la confiance? Pas seulement dans les institutions, mais dans l'idée même que le mérite et l'effort ont une valeur. C'est peut-être ça la tension la plus fondamentale à résoudre.